Bonjour. D'abord, je vous remercie de vous être donné la peine de vous déplacer personnellement. Je pensais que j'aurais fait comme l'an dernier un cours devant une salle vide, ce qui était assez symbolique de ce que je fais d'habitude. Mais vraiment, je remercie et permettez-moi de vous souhaiter une bonne année qui sera, je l'espère, moins fantasmagorique que les précédentes, encore que on ne sache pas trop dans quelle direction nous allons. Et nous commençons donc ce 4 janvier 2022, la 11e et dernière année de mon cours, de ce cycle, donc, qui aura consisté en une enquête continue sur le rapport langagier sino-japonais, considéré à la lumière de ce que j'aurais appelé la hiéroglossie, c'est-à-dire un rapport hiérarchisé à l'intérieur d'un groupe de langues et rapport stimulé ou dynamisé par un facteur religieux. Vous le savez bien, je me permets quand même de revenir là-dessus dans cette introduction générale. Pour le Japon, nous croyons l'avoir montré suffisamment, le facteur religieux est la doctrine bouddhique, dont la fusion avec les croyances indigènes concernant les kami, les kamigami ou divinités japonaises, constitua l'arrière-plan de la culture japonaise de l'époque de Heian jusqu'à l'époque d'Edo. C'est grâce à ce support dogmatique, je dis bien dogmatique, et on se rappellera à ce sujet le cours sur le grand poète religieux Jien, dont nous ne sommes pas encore débarrassés, je vous rassure, puisque je suis sur un projet de publication qui le concernera et qui devrait aboutir en 2025. Alors je vous donne rendez-vous pour 2025 pour revenir sur Jien, qui est vraiment un personnage central, à mon sens, et dans cette enquête. Donc c'est grâce à ce support dogmatique dont Jien a constitué le... Ce n'était pas un théoricien, évidemment, mais il a suffisamment apporté d'éléments à la fois de réflexion et de pratique pour être considéré comme l'un des axes majeurs de ce que je suis en train d'essayer de démontrer. C'est donc à ce support dogmatique que la langue japonaise a pu être portée au niveau de prestige de la langue chinoise et acquérir une autonomie qui n'a cependant jamais abouti tout à fait à un rejet des origines, malgré les apparences. Et bon, je reviendrai sur... Nous avons vu, Norinaga évidemment rejette la Chine, comme nous le verrons à Tsutane aussi, mais il la rejette en surface, alors qu'en réalité, ils en sont pétris, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt de leur démarche, d'ailleurs. Nous avons vu plus spécialement au long des 3 dernières années l'enchaînement de ce processus sur une très longue période de temps, qui va de l'an 1000 à peu près jusqu'à Norinaga, qui est mort, vous vous souvenez, en 1801. En raison de circonstances académiques fortuites, il nous avait fallu inverser l'ordre des 2 dernières années. Je n'y reviens pas, grâce à un petit miracle administratif, j'ai pu faire 11 années au lieu de 9 années, ce qui m'a permis de revenir sur Saikaku, mais évidemment j'avais fini, croyant avoir fini mon cycle en 2020, n'est-ce pas, j'avais terminé sur Norinaga, mais il fallait mettre Saikaku avant. Donc c'est pour cela que cette introduction me permet de remettre les choses dans l'ordre. Donc il nous avait fallu inverser l'ordre des 2 dernières années au risque de rendre moins lisible l'évolution que nous entendions mettre en relief. C'est pourquoi nous profiterons de cette introduction pour résumer brièvement ces 3 derniers cours. Ils se sont succédés de la façon suivante. Tout d'abord, notre présentation du roman du Genji et la mise en lumière de sa structure bouddhique profonde. Nous avons cherché à montrer combien le bouddhisme était loin de ne jouer dans cette œuvre que le rôle d'un simple élément du décor, mais qu'il constituait la trame même de l'œuvre, cela en lien avec les idées de la romancière elle-même. La trame et la structure même. Je reviendrai très rapidement là-dessus, enfin, sans insister, j'en ai suffisamment parlé. Ensuite, Et c'est là que je remets les choses dans l'ordre, n'est-ce pas ? Donc j'inverse les deux dernières années. Notre attention, je fais donc comme si j'avais fait cette démarche logique, alors qu'en réalité j'ai mis la charrue avant les bœufs à cause de ces circonstances administratives. Donc ensuite, notre attention a porté sur un auteur et une œuvre qui, plus de 600 ans plus tard, après Munasaki Shikibu et le Genji, représente une étape décisive dans l'évolution que nous tentons de souligner. Il s'agissait du grand romancier Ihara Saikaku et de l'une de ses œuvres les plus curieuses, Le Grand Miroir des Galanteries, aussi connu sous le titre de Koshoku Nidai Otoko, ou Le Fils de l'Ami de la Volupté. Je vous donne simplement quelques petites références ici, en passant, n'est-ce pas ? Alors, Le Fils de l'Ami de l'Ami de la Volupté, le Koshoku Nidai Otoko, le Grand Miroir des Galanteries, le Shouen Okagami, n'est-ce pas ? Alors, c'était le Fils de l'Ami de la Volupté, puisqu'un artifice narratif en faisait la suite du grand succès de Saikaku, le Koshoku Ichidai Otoko, ou La Vie d'un Ami de la Volupté. Je vous donne la scène de Ichidai Otoko, n'est-ce pas, qui constitue la préquelle en quelque sorte du Nidai Otoko, lorsque le héros va abandonner au Rokkakuji à Kyoto l'enfant que vient d'avoir sa maîtresse, une courtisane. Et dans le premier livre, donc La Vie d'un Ami de la Volupté, on ne parle plus du tout de cet enfant, et il le ramasse en quelque sorte dans le Nidai Otoko. Quand je traduis Koshoku par Ami de la Volupté, c'est pour faire court, n'est-ce pas ? Je ne reviens pas là encore sur tout ce que je vous ai dit l'an dernier sur le terme de Koshoku, qui va, je le rappelle, être repris par Norinaga, Koshoku, donc l'amour de la forme, n'est-ce pas ? Irogonomi, lu en japonais. La lecture Irogonomi est bien plus ancienne au Japon que Koshoku, entre parenthèses, puisqu'on la trouve déjà dès l'époque médiévale. Iro, c'est évidemment la forme, la belle forme, les belles formes, les femmes, l'amour, la volupté, le plaisir matériel, le visuel, le visible, comme support et stimulant du désir, n'est-ce pas ? Donc c'est un terme, je n'en reviens pas là-dessus, mais c'est un terme à la fois bouddhique et chinois traditionnel, mais qui s'est bien sûr au Japon chargé du sens bouddhique. Alors pour ce dernier titre, donc le Koshoku Ichidai Otoko, ou la vie d'un ami de la volupté, l'histoire moderne de la littérature japonaise en a fait l'une des œuvres majeures du roman bourgeois qui s'est développé à l'époque d'Edo et considéré comme le précurseur de la littérature romanesque moderne, vous le savez tous, n'est-ce pas ? Laquelle fut bien sûr avant tout largement influencée par les modèles occidentaux. Mais on s'est cherché aussi des ancêtres japonais et évidemment Ihara Saikaku a tout de suite été dans la mire des historiens de la littérature. Et nous avons vu à ce propos que l'opinion du grand romancier du XXe siècle, Tanizaki Junichiro, qui a passé une partie importante de sa vie à traduire le Genji Monogatari, on peut dire que ce que je dis reflète plutôt mes idées que celles des spécialistes de Tanizaki Junichiro, mais si on regarde la vie de Tanizaki, la vie littéraire de Tanizaki, elle est rythmée par ces trois traductions, ou ces trois versions en tout cas, du Genji Monogatari. C'est très curieux, ce n'est pas un accident de publication, d'une entente avec un éditeur. Tanizaki a travaillé jusqu'à la dernière année de sa vie sur cette traduction du Genji. Donc c'était très important pour lui. Et Saikaku, qu'il met pratiquement après le Genji dans ses influences littéraires. Alors, cette suite très singulière, c'est-à-dire ce Nidai Otoko, elle est très singulière, tout d'abord à ce qu'elle n'en est nullement une. Ce n'est pas du tout le même procédé littéraire que le Ichidai Otoko, soit nous l'avons vu l'an dernier. Nous avons donc vu qu'à part le raccord narratif fait au premier chapitre et l'apocalypse finale, où l'on retrouve le protagoniste nommément cité, le reste du texte n'est fait que d'histoires fort disparates. Mais ce n'est pas là qu'est, du moins pour nous, l'intérêt de cette œuvre, dont on retrouverait le côté bigarré dans d'autres recueils de Saikaku, en particulier le Koshoku Ichidai Onna, n'est-ce pas, la vie d'une amie de la volupté ou du plaisir, qui par beaucoup de traits rappelle Sonidai Otoko. Ce qui nous a amené à en faire la traduction complète, et que j'espère publier rapidement à présent, et le thème d'une année de cours, c'est avant tout l'usage que l'auteur fait du bouddhisme dans sa narration, un usage qui nous a amené inévitablement à faire le rapprochement avec le Genji Monogatari. Les ressemblances et analogies sont trop grandes pour être le fait du hasard, alors que la différence essentielle est tout aussi manifeste. Et n'oubliez pas que le Ichidai Otoko est aussi, dès le début, présenté comme un décalage drôlatique du Genji, cette fameuse première expérience de Yosuke, n'est-ce pas, ou qui est vraiment modelée sur une scène du Genji Monogatari, mais tout à fait sur le mode presque rabelaisien, puisque c'est les nourrices emmènent l'enfant, emmènent l'enfant aux toilettes, n'est-ce pas, et tout est repris du Genji Monogatari, mais décalé dans la perspective vulgaire, on pourrait dire, je reviendrai sur ce concept, du roman bourgeois, du chōnin, shōsetsu, n'est-ce pas. Donc c'est l'utilisation du bouddhisme qui est faite par l'auteur. Les ressemblances et analogies sont trop grandes pour être le fait du hasard, alors que la différence essentielle est tout aussi manifeste. Dans le Genji, le bouddhisme explique d'une part le destin malheureux des personnages, qui sont ballottés par leur passion et n'ont plus la force morale de s'en libérer, en effectuant la démarche évidente et constamment évoquée, vous vous souvenez, quitter la vie mondaine pour entrer dans la voie bouddhique, le Nyūdō. Mais nous avons vu que cette vision pessimiste, qui se fondait sans doute sur les doctrines de la fin de la loi, le Mappo, n'est-ce pas, n'était pas le seul élément bouddhique de l'œuvre. Il y avait aussi la structure même du roman, dont les 54 chapitres se laissaient rapprocher du nombre d'étapes menant de la conception de la pensée d'éveil à la réalisation même de l'éveil. Cette structure n'avait pas échappé aux moines médiévaux, qui était allé jusqu'à mettre en parallèle le roman avec le Sutra du Lotus lui-même. Le sens profond de l'œuvre était ainsi porté par une assimilation délibérée à la dignité scripturaire, à la dignité d'un Sutra bouddhique. On retrouve en tout point les mêmes préoccupations dans le Grand Miroir des Galanteries, le fils de l'ami de la volupté. Mais ce qui était véritable souci salvifique chez la romancière Murakami Shikibu, devient chez Saikaku une parodie systématique. Le vocabulaire du bouddhisme et les conceptions bouddhiques sont omniprésents, de même, comme dans le Genji, que les éléments scéniques, évidemment, les rituels et tout ça, sont des prétextes à décrire le bouddhisme, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est bouddhiste. Mais le romancier reste fidèle à lui-même en s'en servant pour faire ressortir le caractère grotesque et ridicule des situations, ce qui n'ôte rien par ailleurs à une certaine indignation morale et sociale. Chez lui, chez Saikaku, l'importance primordiale des liens karmiques, n'est-ce pas, vous vous souvenez, on a passé beaucoup de temps là-dessus, les innen, n'est-ce pas, les causes et conditions, mais qui est parfois abrégé, qui est souvent, même plus que souvent, abrégé en en, et lu en japonais yukari, par exemple, tout cela relève de la même plage sémantique et nous met toujours en relation avec le bouddhisme derrière, mais donc c'est l'importance des des liens karmiques, je traduis karmique pour faire court, n'est-ce pas, ce sont donc toutes les conséquences de vos actes qui vous engagent, qui sont à la fois le résultat de vies antérieures et qui vous engagent pour les vies ultérieures. Et ce sont des, je le redirais, des actes, des responsabilités morales dans le bouddhisme. C'est bien ou mal. Donc, ces liens karmiques se déploient autant dans les relations amoureuses que dans les relations sociales. Et ce n'est nullement objet de dérision chez Saikaku. C'est même en soulignant leur côté implacable que la narration mène le lecteur à la scène finale. Nous avons vu en particulier dans le dernier livre de l'ouvrage que l'auteur, dans le huitième livre du Nidai Otoko, que l'auteur esquisse une remise en ordre de sa narration sous forme de sutra. On pourrait dire que le dernier livre commence et finit comme un sutra bouddhique. Je ne reviens pas là-dessus. Et je vous montre par exemple cet extrait du premier chapitre du huitième livre, qui est vraiment un voyage dans les enfers, n'est-ce pas ? Et on voit peu à peu le personnage remonter des enfers jusqu'à la terre pure. Et je pense avoir montré que ce n'est pas le fait du hasard, puisque c'est ainsi que le lecteur est mené à l'apocalypse finale. L'intrication des motifs religieux et des observations économiques procure à ce texte de Saikaku un ton unique que nous devions de mettre en évidence dans l'enquête qui nous intéresse. Comment devons-nous interpréter ce décalage parodique ? Nous devrions tout d'abord y trouver une confirmation de notre lecture du Genji. Si Saikaku transforme de façon beaucoup plus explicite le dernier livre du Miroir des Galanteries en un sutra décalé, c'est bel et bien qu'il en a trouvé le prétexte dans le Genji et qu'il se contente simplement de charger, de caricaturer, selon l'étymologie, n'est-ce pas, son modèle pour le faire passer dans une dimension plus conforme au goût de son époque. La référence sous-jacente au Genji n'est pas propre au Miroir des Galanteries, nous l'avons dit. Elle se trouve déjà de façon fort appuyée dans le Koshoku Ichizai Otoko, de même que dans le reste des œuvres qui relèvent du genre Koshoku Mono. Ainsi, en embourgeoisant ses personnages et en parodiant la structure bouddhique de son modèle, Saikaku en reconnaît tout d'abord la pertinence. Il suit la lecture que nous avons voulu mettre en évidence dans notre cours, et qui est bien sûr la lecture dans les milieux bouddhiques, mais qui a été complètement occultée, enfin pas complètement, mais considérablement occultée dans la critique littéraire du Genji, parce qu'on a pensé que c'était une récupération du bouddhisme. J'essayais de montrer que non, c'est fondamental au roman lui-même. Mais il en reconnaît donc la pertinence, mais il se livre aussi à une double entreprise de remise au goût du jour. Sa vision des innen, donc, ou des liens causaux bouddhiques, est systématiquement ambiguë. Il adopte d'une part la notion traditionnelle dont l'utilité narrative n'est plus à démontrer dans les histoires de relations amoureuses, mais il accorde d'autre part une importance aussi grande, voire majeure, aux causes et conditions périphériques. Ce sont toujours des causes et conditions, n'est-ce pas ? N'oubliez pas que, on en a parlé il y a très longtemps, mais les causes et conditions entraînent la rétribution, n'est-ce pas ? K.O., les fruits et les conséquences morales. K, c'est Kudamono, c'est donc la production concrète de votre existence, et Mukui, c'est la rétribution morale qui va apporter cette renaissance. Donc, il est... Mais seulement, vous avez le périphérique, ce que j'appelle le périphérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le bouddhisme les rétributions indirectes, n'est-ce pas ? Eho, c'est-à-dire c'est le monde dans lequel vous êtes, et la société. Donc, on voit bien que chez Saikaku, les rétributions indirectes, en quelque sorte, qui sont celles qui relèvent du contexte social, prennent une importance bien plus grande que dans le Genji. Il préfigure ici ce qui le préoccupera beaucoup plus intensément dans ses œuvres plus tardives. Vous savez qu'à la fin, dans le Edoe, Taikura, etc., ce sont vraiment presque des romans. Et j'avais esquissé le parallèle avec les romans économiques, les Keizai Shosetsu, qui ont eu énormément de succès au Japon à partir des années 50. Et Saikaku en est le précurseur. Donc, il montre donc l'importance primordiale des conditions économiques dans les relations sociales, même amoureuses. Il ne fallait certes pas être un observateur exceptionnel pour découvrir cette vérité en décrivant la vie des quartiers des plaisirs. Mais Saikaku se délecte à mettre en lumière la réalité qui se cache derrière le simulacre pseudo-romanesque, les lettres de serment, les grands engagements. Ici encore, on pourrait voir une vision mondanisée de la relation entre les deux vérités. Les deux vérités du bouddhisme, Sokutai et le Shintai, la vérité vulgaire, phénoménale, la vérité d'enveloppement, comme dit le sanskrit, n'est-ce pas, mais ce qui est derrière, la vérité authentique, absolue, celle que l'on découvre à travers le développement de la sagesse bouddhique. Mais chez Saikaku, on pourrait dire que le véritable aspect des choses, la vérité authentique, est encore plus profane, voire vulgaire, que la vérité vulgaire, puisque derrière le clinquant du quartier des plaisirs que décrit Saikaku, eh bien, on a des motifs profondément économiques. Encore une fois, rien de tout cela n'est fait pour intimider Saikaku, qui porte au plus profond son scalpel incisif. Cela ne l'empêche pas de garder pour ses personnages un sentiment d'empathie sur lequel nous reviendrons. Voilà donc remise à niveau par Saikaku la notion de lien causal. Mais nous n'oublions pas que les relations causales, dans tout leur sens, sont aussi l'un des principaux thèmes exposés par les sutras, ainsi qu'il l'est répété entre autres par le Sutra du Lotus. Aussi, en se consacrant à les mettre en lumière, notre auteur fait pour ainsi dire œuvre scripturaire. De la même façon, nous l'avons vu que le Genji était déjà un sutra pour un monde où la loi n'opérait plus. Je ne reviens pas là-dessus, un article paraîtra prochainement où je développe cette idée. À plus forte raison, en allait-il de même à l'époque de Saikaku, où le milieu raffiné de la cour de Heian avait été remplacé par la vie effrénée des quartiers des plaisirs, les Hirosato. L'occasion était donc trop bonne de se livrer à cette parodie de sutra dont nous avons vu qu'elle était systématique et drôlatique dans le dernier livre. Que fait donc Saikaku dans ce grand miroir des galanteries? En prenant comme modèle le Genji Monogatari, dont nous voyons qu'il y découvre les mêmes caractéristiques que nous, il s'évertue à lui retirer, grâce à la parodie, mais aussi au réalisme social, ce qui faisait de l'antique roman une sorte de texte sacré. L'aspect moral des liens causaux, qui est, ne l'oublions pas, primordial dans le bouddhisme, puisque c'est la qualité morale de l'acte qui détermine ses conséquences pour les relations ultérieures, cet aspect moral est gommé au profit des relations économiques et financières. Nous en sommes davantage au contrat social qu'à la loi du karma, et le contrat social dans le sens le plus littéral du terme, puisque, ne l'oubliez pas, les courtisanes sont effectivement sous contrat. C'est bien pire que les étudiants américains qui ont des bourses pour les grandes universités et qui doivent passer toute leur vie à rembourser. Les courtisanes signent un contrat, ou leur famille, puisque le plus souvent elles sont encore fillettes lorsqu'elles sont livrées à ces établissements, dans lesquels elles devront rembourser la somme de leur achat plus les frais d'entretien, en quelque sorte, qui sont facturés méticuleusement chaque année. C'est une dette perpétuelle qu'elles ont à rembourser. Vous voyez que le lien causal, là, est tout à fait concret. Il n'y a donc pas de jugement moral à porter sur les actes des courtisanes comme de leurs clients et protecteurs. Ils font ce qu'ils peuvent dans le cadre d'une rigoureuse contrainte sociale qui les dépasse infiniment. Le prolongement scripturaire parodique s'inscrit bien sûr dans la même opération. Si les moines... Je vous donne une photographie de ce spectacle. Si les moines médiévaux, ainsi que le rappelle l'extraordinaire no intitulé l'offrande au Genji, le Genji Kuyo que nous avons ici, dont j'ai parlé, n'est-ce pas, avaient vu dans l'œuvre non seulement l'équivalent du Sutra du Lotus, mais dans l'écrivaine elle-même, je reprends ce terme d'écrivaine parce qu'il est très ancien. Il date du XIVe siècle, c'est suffisant pour moi pour le justifier. Mais dans l'écrivaine elle-même, donc, nul autre que le Bodhisattva Kannon, sous la forme féminine qu'il a couramment au Japon. Nous voyons ici le fantôme de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, reconnaissable à sa couleur. Et il fallait donc neutraliser cet aspect essentiel du Genji pour l'adapter au monde contemporain. Débouddhiser le Genji. Nous voyons ainsi combien cet ouvrage singulier de Saikaku constitue une rupture avec la vision du monde que véhiculait le Genji, œuvre où s'harmonisaient culture chinoise et culture japonaise à travers un méticuleux travail de transposition mené à la lumière du bouddhisme. Évidemment, nous n'avons pas pris position sur la question de savoir si cette œuvre, le Nidai Otoko, le grand miroir des voluptés, j'avais traduit par volupté, mais je me suis repenti et je traduis maintenant par galanterie, le grand miroir des galanteries, la question de savoir si cette œuvre était bel et bien de Saikaku. Les spécialistes divergent trop sur la question pour que nous puissions y apporter le grain de sel de notre ignorance. Nous avouons avoir un faible pour le tout ou rien prôné par certains critiques. Selon eux, certains, mais qui sont de plus en plus rares maintenant, seul le Koshoku Ichidai Otoko serait de Saikaku, le premier. Et tout le reste étant le fait de disciples ou d'émules ou de l'école de Saikaku. Mais comme nous l'avons dit, l'authenticité ou non ne retire rien à notre thèse. Que ce soit Saikaku ou une école autour de Saikaku, tout est parfaitement valable dans ce rapport avec le Genji Monogatari. L'important étant qu'à cette époque, un milieu suffisamment cohérent et important se soit livré à cette opération de remise à niveau. Mais cette marginalisation systématique, parce que nous l'avons montré, les allusions à cette doctrine sont partout dans le récit, cette donc marginalisation systématique du bouddhisme, de la voie du Bouddha, le Butsudo, n'est-ce pas, Hotoke no Michi, avec ce terme important de Michi, on y a passé de nombreuses heures les années précédentes, cette marginalisation du Butsudo, de Hotoke no Michi, s'accompagne du surgissement d'une voie nouvelle dont nous avons vu l'importance pour la création littéraire de l'époque. Il s'agit de la voie du plaisir mondain, Shikido, qui est un terme qui est établi en parallèle avec Butsudo et d'ailleurs d'autres Michi, Hotoke no Michi, la voie du Bouddha, Iro no Michi, n'est-ce pas, Shikido, donc c'est la voie du plaisir, dont l'appellation est un néologisme. N'est-ce pas, il faut bien voir ça, c'est tellement maintenant enraciné dans la langue japonaise qu'on ne s'aperçoit pas que ce terme n'existe que à partir de l'époque de Saikaku. Ce n'est peut-être pas lui qui l'a inventé, c'est l'auteur du Shikido Okagami, une sorte de guide des quartiers des plaisirs, entièrement, c'est une sorte de routard des quartiers de plaisirs du Japon, mais qui est entièrement comme le routard, centré sur les tarifs, les spécialités, etc. C'est donc on est très loin du Butsudo, n'est-ce pas? Mais la création, le terme lui-même est décalqué sur Butsudo, et comme sur d'autres. À l'époque arrive toute une panoplie de néologismes fondés sur Michi, dont nous allons revoir la pertinence. Donc, nous avons vu que ce néologisme est très probablement, plus que probablement, d'origine japonaise. Il n'existe pas en chinois. Il n'existe pas en chinois. Et maintenant encore, comme je vous l'ai montré à ce moment-là, l'an dernier, il est perçu comme une création linguistique japonaise par les Chinois eux-mêmes, n'est-ce pas ? Quand bien même Saikaku n'en serait pas le créateur, il fut certainement le plus efficace propagateur de ce terme, qui offre le meilleur cadre conceptuel à son projet littéraire. Il est en effet manifeste, ainsi que le montre la lecture même de Shikido, n'est-ce pas ? Shikido est une lecture bouddhique, une lecture neutre, enfin laïque serait Shokudo, Mais bon, autre que ça, des homophonies avec d'autres termes japonais plus communs, shiki, le terme de shiki le met carrément dans le bouddhisme. Et donc cette voie du plaisir sensuel est posée comme une alternative viable, il y a un jeu de mots, à la voie bouddhique. Elle est la voie dans laquelle peut se déployer la vision matérialiste des causes et conditions. Si vous voulez, de même que le Butsudo exprime la vision bouddhique des causes et conditions, le Shikido est l'espace de déploiement du Innen selon Seikaku. Elle est la voie dans laquelle une parodie de sutra telle que la développe Seikaku ne paraît pas déplacée. Et l'on s'aperçoit alors à quel point le projet littéraire de notre romancier est cohérent. Si son œuvre pouvait apparaître comme une désacralisation du Genji, elle constitue en revanche l'établissement d'un nouveau corpus scripturaire exposant la voie du plaisir. Il y a cependant un sentiment profond qui parcourait tout le Genji, dont Seikaku ne parvient pas à se débarrasser, si tant est qu'il en ait eu l'envie. Il s'agit de la compassion bouddhique, en sino-japonais, jihi, n'est-ce pas ? C'est le terme que vous retrouvez ici dans cette citation du Sutra du Lotus, n'est-ce pas ? Jihi. Que l'on lira en japonais, Itsukushimi awaremu, par exemple, et qui est ressenti constamment par l'écrivaine, par notre romancière Musasaki Shikibu, à l'égard de ces personnages soumis au flux des passions. Bonno, c'est pas, ils sont les bonno, donc ce sont les passions qui vous engagent dans le monde phénoménal, et la Murasaki Shikibu fait montre constamment à la fois d'une admiration sans borne pour le Genji qui est soumis on ne peut plus aux passions, mais elle a aussi une compassion, une commisération, un jihi à l'égard de ces personnages. La lecture que nous avons faite du roman de Seikaku montre que l'auteur éprouve pareillement, bien que plus discrètement, de la compassion pour ses personnages, surtout féminins, même s'il ne perd jamais l'occasion de relever de la façon la plus sardonique qui soit les préoccupations financières et matérielles qui motivent une grande partie de leurs actes. Mais je vous l'ai dit, et il le redit toujours, il revient toujours sur cet aspect d'enchaînement, alors au sens le plus littéral, social, qui est le contrat qu'elles ont, n'est-ce pas ? Mais une question se pose alors tout naturellement. Autant la compassion de Murasaki Shikibu est compréhensible dans le cadre de la voie bouddhique qui est la sienne, au nom de quoi, en revanche, Seikaku peut-il éprouver de la compassion ? Puisque la voie du plaisir sensuel se justifie en elle-même et que ceux qui la suivent sont éminemment responsables de leurs actes en un monde où la morale n'a plus de sens que comme réalisation des plaisirs. Il faut reconnaître que nous n'avons pas de réponse en l'occurrence, si ce n'est de constater en toute banalité que la compassion et la pitié est un sentiment naturel qui n'a pas besoin de justification dogmatique. Mais nous allons pourtant voir que cette question est loin d'être anodine. Il nous faut en effet passer à présent à l'œuvre de Motohori Norinaga, qui nous avait occupé entre l'année du cours sur le Genji et l'année sur Seikaku. Il va sans dire que cette interversion n'était due qu'à des circonstances administratives heureusement rétablies qui nous ont permis de donner notre cours sur Seikaku afin de rétablir le chaînon manquant entre Murasaki Shikibu et Norinaga. Cette introduction est donc l'occasion, je le répète, fort bienvenue de remettre les trois thèmes en perspective. Et nous verrons très rapidement combien la place de Seikaku est importante dans l'évolution qui mène à Norinaga, avec tous les éléments que je viens de rappeler. On se souviendra que nous avions divisé l'œuvre et la réflexion de Norinaga, de Motohori Norinaga, donc le grand fondateur des études philologiques nationales, n'est-ce pas, le Kokugaku au Japon, 1730-1801. Et nous avions divisé son œuvre en deux grandes périodes. Nous étions partis de la réflexion de Horikuchi Shinobu, donc le grand Minzoku Gakusha, si vous voulez, ethnologue, anthropologue japonais du XXe siècle, cette réflexion de Horikuchi Shinobu, rapportée par Kobayashi Shigeo, un autre grand essayiste qui est mort dans les années, à la fin des années 70. Je vous répète cette phrase, Kobayashi-san, Norinaga wa Genji desu yo. Norinaga, c'est le Genji. Affirmation a priori étonnante, puisque ce philologue, Norinaga, doit avant tout sa notoriété moderne aux travaux exégétiques qu'il a accomplis sur le Kojiki, n'est-ce pas, le grand texte fondateur de la mythologie japonaise. Mais nous avons suivi le parcours philologique de notre auteur, de Norinaga, à partir du Genji, et nous avons tenté de reconstituer l'itinéraire intellectuel qui a mené Norinaga à cette évolution. Donc, une première époque, le Genji, une seconde époque, le Kojiki, et qui lui permet de faire un retour beaucoup plus vaste sur la destinée philologique du Japon, du japonais, en quelque sorte. Nous n'avons pas le temps de résumer ici en détail notre cours, mais nous allons voir que trois points essentiels de sa réflexion sont en parfaite congruence avec ce que nous avons esquissé de l'œuvre de Saikaku, et ils peuvent nous aider à comprendre l'évolution qui s'est faite autour du Genji, par lui et son époque. Tout d'abord, Norinaga revient inlassablement sur une idée fondamentale pour lui. Dans son œuvre romanesque, Murasaki Shikibu n'a aucune préoccupation morale. Il ne s'agit pas pour elle de juger ses personnages, mais simplement d'exposer leurs actions. Cette négation de toute morale n'est pas le produit d'un caprice de la part de Norinaga. Elle est partie intégrante de son refus primordial de l'idéologie continentale, c'est-à-dire chinoise, qu'elle soit confucianiste ou bouddhique, dont la préoccupation première, selon lui, est d'encourager le bien et censurer le mal, que ce soit le confucianisme ou le bouddhisme. Pour Norinaga, c'est pareil, ce sont des gens qui ne pensent qu'à la morale. Norinaga, donc, relève très clairement ce que chaque lecteur peut constater à la lecture du Genji. La romancière se garde bien de juger. Mais elle se garde de juger explicitement. Nous avons vu dans notre cours que son action morale se situe sur une autre dimension, bien plus profonde. Mais Norinaga choisit bien sûr de l'ignorer, et la négation de toute préoccupation morale entraîne du même coup la négation de la présence du bouddhisme dans l'œuvre. Mais nous avons vu aussi que l'idée majeure de Norinaga, qui dirige toute sa réflexion, aussi frustrante qu'elle puisse nous apparaître par l'absence d'une définition formelle, est celle de la voie, Michi, dont il retrace peu à peu l'origine jusqu'au monde des dieux. Il revient inlassablement sur l'idée selon laquelle la voie, sa voie, n'a rien à voir avec les voies continentales qui se caractérisent par leur diversité, leur complexité verbeuse et leur inefficacité pour le Japon, quand bien même elles seraient utiles pour brider les facultés morales plus frustes des populations continentales. Je parle au nom de Norinaga ici, bien sûr. Il s'agit donc d'une voie amorale, dont on pourrait dire qu'elle n'est que la concrétisation du verbe koto, n'est-ce pas ? Koto, le verbe japonais, le kotoba, le verbe de la parole japonaise. C'est pourquoi son origine est à chercher dans le Kojiki lui-même. Évidemment, vous voyez bien que cette autonomie du mot michi peut être considérée comme le dépassement de la dichotomie de Saikaku, de l'époque de Saikaku, Butsudo, Hotoke no Michi, Iro no Michi, c'est pas Shikido. On enlève les deux déterminants, Hotoke et Iro, et il nous reste Michi. Et c'est ce que fait Norinaga. Il absolutise le mot Michi, qui n'était jamais... D'ailleurs, c'est très amusant de voir que Norinaga reconnaît pas tellement à demi-mot, enfin, reconnaît que certains de ses critiques qui lui disent « mais votre Mitchi, c'est le Tao de Lao Tzu », il dit « bah oui, à première vue, ça pourrait ressembler, mais c'est, évidemment, ça n'a rien à voir, puisque Lao Tzu, c'est chinois, et moi, mon Mitchi n'est pas chinois ». Mais il reconnaît quand même, dans certains passages assez savoureux, le fait que, justement, cette absolutisation revient à quelque chose. Mais vous voyez que ça ne peut se comprendre dans notre cas que si l'on passe par Saikaku qui dévalorise le Butsudo en Shikido. Et on me permettra en plus de faire ici une très brève incisive qui nous remettra dans la qui nous remettra dans la perspective d'un cours antérieur, celui sur le maître de Zen Dogen, dans lequel nous avions insisté sur l'innovation apportée par ce maître du langage à travers son insistance sur la lecture koto de Michi. Vous vous souvenez que Michi, en chinois, disons, moderne, Tao, Do, peut se lire Michi ou bien Yu, n'est-ce pas, c'est-à-dire parler. Et très souvent, on donne la lecture Koto, c'est au sens de Kotoba. Et chez Dogen lui-même, donc 13e siècle, nous revenons en arrière. Et en se référant au double sens courant dans le chinois vulgaire, n'est-ce pas, de son époque, où le caractère Tao, signifiant seulement « voix » en chinois classique, signifie désormais « dire », voire « parole » ou « mot ». Bien qu'il n'y ait nul indice d'une influence de Dogen sur ce point, le double sens de Tao était parfaitement intégré dans le japonais d'Edo. Et il faut aussi reconnaître que la période d'Edo est la période de la grande découverte de la littérature en chinois vulgaire, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle Baihua, Hakua, la langue blanche, c'est-à-dire la langue non apprêtée, la langue non ornée du chinois classique, cette langue directe en quelque sorte, et l'époque d'Edo découvre ce japonais. Et les grands Kangakusha essayent d'innover dans leur recherche justement en s'adressant à cette langue. Ça ira au point que certains vont essayer de faire des romans japonais en Paihua, n'est-ce pas, en Hakua. Il y aura une petite mode au Japon. Alors, si bien qu'à l'époque de Norinaga, ça n'a nullement... C'est tout à fait normal de donner les deux sens de voix et de parole à ce caractère. Mais revenons à notre sujet. En reliant directement sa voix à la parole, parole dont l'archétype est divin et donné dans le Kojiki, Norinaga se débarrasse du même coup de la morale bouddhique, de l'influence continentale et de toute référence étrangère à l'essence du Genji. Nous voyons alors combien l'étape intermédiaire de Saikaku a été utile dans cette évolution, en éliminant précisément le contexte moral du dogme des liens causaux, fondamentalement bouddhique, mais aussi en dévoyant, pour ainsi dire, la voie que Saikaku et ses contemporains transforment en voie du plaisir, laquelle ne mène qu'à elle-même. Ce renversement est bien sûr favorisé par la parodie de Sutra qui conclut le miroir des galanteries, n'est-ce pas vous ? Je crois que je vous l'ai mis quelque part. N'est-ce pas ? Voilà, c'est nous avons ici une scène de sutra bouddhique, n'est-ce pas, de sutra de la terre pure, de renaissance en la terre pure, sauf que vous voyez que le héros brûle, s'immole au milieu des lettres d'amour de ses maîtresses, dont on a bien compris tout au long du récit que c'est de la rigolade, n'est-ce pas, parce que ce sont des simulacres, de lettres d'amour, simplement, qui sont la condition de l'engagement que prend l'amant à s'occuper des besoins matériels de sa pseudo maîtresse qui est en réalité une courtisane qui se vend à lui et donc c'est en même temps une parodie, un rappel d'un passage du Genji Monogatari où avant sa mort le Genji brûle toutes ses lettres d'amour, enfin, qui étaient réputées plus sincères. Enfin, Et bon, je ne vous parle pas de la suite du Bouddha Amida. Vous voyez que la personnalité, c'est une grande étaïre, n'est-ce pas, une grande courtisane qui vient comme le Bouddha Amida, et que toute sa suite est constituée des courtisanes, des célèbres courtisanes de l'époque. Donc ce renversement est favorisé par la parodie de Sutra qui conclut le miroir des galanteries. En supprimant la base dogmatique de la narration du Genji, la morale des liens causaux et la voie bouddhique qui la transmet disparaissent du même coup. Il était donc indispensable de passer par cette étape du roman bourgeois pour que Norinaga vienne combler le vide fort opportunément créé par Saikaku. Et l'on comprend ainsi à quel point l'étape du Genji était importante pour remonter ensuite à la source du Kojiki comme fondement de la parole. Mais il reste une dernière conséquence tout aussi importante de cette opération d'évacuation. Je reprends un terme bouddhique qui était utilisé dès le début du IXe siècle, n'est-ce pas, par Gichin, évacuer, ku, n'est-ce pas, au sens verbal, donc du Genji, le rendre vide. L'une des notions élaborées par Saikaku à propos de ce roman, qui s'est répandu le plus largement dans les représentations modernes japonaises, avant de s'exporter dans le monde entier grâce à la vogue internationale du roman du Genji, c'est la locution, la célèbre locution « Mono no Aware ». Vous l'avez à la fin de la première ligne ici dans ce poème de Shunze, « Mono no Aware ». Ce terme, souvent traduit en dehors des cercles plus spécialisés par des expressions imagées telles que « mélancolie des choses »,« poignance des choses », parfois aussi plus récemment par « empathie », fait l'objet de nombreuses allusions et commentaires chez Norinaga, qui y voit donc la principale caractéristique du Genji. Vraiment, il a réussi à coupler les deux, n'est-ce pas, Genji Monogatari, Mono no Aware. N'importe qui au Japon maintenant vous en parlera, non seulement au Japon, mais en dehors du Japon. Il est tout à fait remarquable que chez lui, cette notion soit parfaitement autonome, c'est-à-dire qu'il ne la fonde sur aucun contexte moral ou idéologique. Il s'agit d'une relation que je pourrais appeler interactive, en manière de plaisanterie, entre l'auteur, le lecteur et les personnages littéraires. Elle est éprouvée par l'auteur ou par l'autrice, l'autoresse, à l'égard de ses personnages. Elle est éprouvée par les personnages entre eux et elle est finalement éprouvée par le lecteur à l'égard des personnages. La parfaite autonomie dogmatique de cette notion a contribué à en faire ressortir l'originalité chez ceux qui l'ont reprise à satiété, en faisant une sorte de création singulière à considérer en soi. Et il faut reconnaître à Norinaga un talent de persuasion. Vous savez, c'est un talent de persuasion qui est largement fondé sur la répétition. Chez Norinaga, nous en avons déjà parlé, il répète constamment les mêmes choses en rajoutant. Il n'est pas tout seul, vous me direz, mais c'est en rajoutant à chaque fois des petits détails, mais on a bien cette idée. Et c'est effectivement le signe du succès herméneutique de Norinaga qu'il ait réussi à imposer durablement une telle notion, perçue désormais comme indissociable de la narration du Genji. Or, c'est précisément dans cette autonomie, cette singularité de surface que se révèle la ruse dialectique de Norinaga, qui se fonde entièrement sur la situation de dissolution herméneutique du Genji dont héritait son époque, une fois passée l'action de Saikaku. Car ce Mono no Aware, qui ne renvoie en effet qu'à lui-même dans le commentaire de Norinaga, et qui constitue effectivement une remarquable invention littéraire, une sorte de sentiment ou de réponse effective qui ne se produit que dans la lecture. Cette notion est en réalité, nous pensons l'avoir suffisamment montré, la simple décontextualisation de la compassion bouddhique. Et je vous en donne, euh, je vous en donne très, très, je vous donne très, très rapidement les indices les plus, la démonstration même, je dirais ici. Ce premier poème de Shunze, n'est-ce pas, Shunze, donc le grand poète japonais de la fin du XIIe siècle, qui est le père de Teika, et qui, ne l'oublions pas, est aussi un grand moine du Tendai. C'est un religieux du Tendai qui a fait un traité, encore une fois, un peu frustrant, comme beaucoup de textes théoriques japonais, puisque ça démarre très fort, et puis ensuite l'auteur apporte des démonstrations concrètes à sa première théorie, mais sans élaborer, donc en donnant au lecteur le soin de le faire. Mais Norinaga cite lui-même, à propos du Mononawari, ce poème de Shunze. Shunze, donc, moine bouddhique Tendai poète. N'est-ce pas ? On ne peut pas lui ôter ça. Mais évidemment, Norinaga fait comme si de rien n'était. Alors, où il décrit, et vous voyez, Koise Zumba, Shito wa kokoro mo nakaramashi, Mononawari mo sore yori zoshiru. Si on n'est pas amoureux, eh bien, il n'y aura plus rien du cœur chez les humains. Et mono no aware, mo, ce que Norinaga emploie dans son sens ici, n'est-ce pas, parce que, eh bien, c'est à partir de là, sole yori zo shiru, c'est à partir de l'amour que l'on comprend le mono no aware. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Shunze. Eh bien, on le sait, si on regarde d'autres poèmes de Shunze, et en particulier Shunze, grand moine du Tendai, grand poète, donc poète et moine du Tendai. Que fait un poète moine du Tendai? Il fait des shakkyoka, n'est-ce pas? Il fait des poèmes à thème bouddhique, et en particulier des poèmes à thème bouddhique, où il explique en termes poétiques là, ce qu'il pense être la vérité du Sutra du Lotus en particulier. Et nous avons justement ce poème de Shunze qui est fondé sur un passage du Sutra du Lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Daijishi no chikara o motte shujo shite kuno o doseshimu. On peut dire comme ça. Que de par la force de sa compassion, il délivre les êtres de leurs souffrances, de leurs affres, n'est-ce pas ? Et vous voyez que vous avez ici deux termes importants, vous avez shujo et vous avez jishi. Et donc vous avez et le poème qui est fait par Shunze à ce sujet, Yononaka no kurushiki michi wa awaremi no chikara. Awaremi no chikara guruma no hakobu narikeri, dont je vous donne ma traduction, par la douloureuse voie, et vous avez michi ici, mais c'est kurushiki michi, mais c'est le michi phénoménal, puisqu'il est douloureux. Eh bien, ce qui permet de le faire traverser, c'est le puissant chariot de la awaremi, n'est-ce pas ? Et vous voyez que awaremi n'est que la forme verbale de aware, est bien employée pour transcrire le sino-japonais jihi, la compassion bouddhique. Alors, et vous avez que le mono, vous voyez, shujo est aussi un synonyme de... Dans le bouddhisme et dans la poésie bouddhique, mono est un synonyme de shujo, c'est-à-dire les êtres vivants, les êtres, sattva en sanskrit. Donc nous avons bien ici, chez Shunze, nous avons à la fois le point de contact entre Norinaga et Mono no Aware, Et Shunze, n'est-ce pas, c'est Norinaga, c'est pas moi qui suis allé plaquer ça, c'est Norinaga lui-même qui cite Shunze, n'est-ce pas, simplement, et bien sûr, il ne va pas dire, ah oui, cette grande notion bouddhique qu'est la compassion, non, mais il va la prendre, il va la décontextualiser, comme je vous l'ai dit, il va alors il n'y a rien de très novateur à mettre la compassion bouddhique au nombre des réactions possibles à la lecture du Genji, et nous avons vu quel est le fait de la romancière elle-même. Mais en revanche, le Mononoware de Norinaga nous frappe par son originalité qui provient du retranchement de tout contexte qui lui redonnerait sa signification primordiale. Ce Mononoware hors contexte, qui n'est plus qu'une locution littéraire, ou plutôt une parole, koto, ne renvoyant qu'à la langue même, est en parfaite harmonie avec le Michi, la voix du même Norinaga, qu'il a réussi, contre toute vraisemblance historique, à isoler complètement des voix continentales pour en faire une singularité japonaise. Singularité précisément parce qu'elle n'a aucun caractère moral. Ce n'est pas une voix qui mène à l'éveil, ni à l'amélioration personnelle, et pourtant ce sera forcément la voie du bon gouvernement. Mais laissons pour l'instant la question de côté, car nous la retrouverons au fil des leçons avec nos autres auteurs. Nous pensons donc avoir remis en perspective la suite Genji, Saikaku, Norinaga. Cette disqualification plaisante du grand roman japonais qu'est toujours le Genji, par Saikaku, sera finalement couronnée à la génération suivante, celle de Norinaga, par la parution du roman feuilleton, pourrait-on dire, puisqu'il est paru en livret. Vous voyez, ça c'est le Junihen no Shita, c'est le 12e fascicule. Ce roman feuilleton qui est intéressant, qui est intitulé le Genji rustique, de la pseudo Murasaki, vous l'avez ici, Nisse Murasaki Inaka Genji, n'est-ce pas? Donc le Genji rustique de la pseudo Murasaki. Et vous voyez un peu l'aspect un peu thénardier des personnages, surtout les vêtements de l'héroïne ici qui sont on ne peut plus rustiques, n'est-ce pas? Et donc voici qui est une œuvre de Ryutei Taneshiko, dont cet auteur, vous voyez, est à peu près, et même l'exact contemporain, 1776-1842, il est l'exact contemporain de Hirata Atsutane, 1776-1843, vous voyez, 1842-1843, ils sont morts à un an d'intervalle, qui va nous occuper dans la deuxième partie de ce cours. Ce synchronisme est très révélateur, nous verrons comment l'interpréter. Mais disons d'ores et déjà que cette entreprise, non pas de marginalisation, mais de dévaluation du Genji, est en parfaite congruence avec l'évacuation du bouddhisme à laquelle nous allons assister cette année. Tant il est vrai que les Japonais ont toujours été conscients de la dimension bouddhique du Genji Monogatari. Ici encore, une courte digression s'impose. Si Ryutei, l'auteur du Inaka Genji, parsème son œuvre de poème, comme le Murasaki Shikibu le faisait du Genji, conformément à sa parodie, il ne s'agit plus de waka, mais de haïku. Et là aussi, on voit à quel point le haïku, alors c'est une opinion personnelle, mais est une dévalorisation du waka. Et n'oubliez pas que Saikaku est peut-être plus connu à son époque et plus apprécié des milieux littéraires comme auteur de haïku que de Koshoku Monogatari, n'est-ce pas? Et que les haïkus de Saikaku appartiennent à une école de haïku populaire, en quelque sorte, hein, et pas du tout de haïku, pas du tout de haïku littéraire. Ce changement est très important. N'oublions pas, nous l'avons dit et répété tout au long de ces années, que le waka est un genre poétique que l'on pourrait dire sacrato, comme Dante parlait de son poème, le poème non pas sacré, mais sanctifié, comme le relève Carlo Ossola, n'est-ce pas ? Sanctifié de par son origine divine. Le haïku n'a bien sûr pas cette prestigieuse lignée. Et l'on se rappellera que l'école cultivée par Saikaku illustre bien cet embourgeoisement et cette dévaluation poétique. La sublimation du haïku est un phénomène largement moderne, mais ceci est une autre histoire. Remarquons simplement que s'il y a tout un genre poétique bouddhique exprimé par le waka, les shakyoka donc, on en saurait trouver l'équivalent avec le haïku, quand bien même il existe des haïkus à thème bouddhique. J'entre dans un débat délicat, mais de toute façon je n'ai pas le temps d'y revenir ici. Il convient donc de se rendre à l'évidence. Tout ce processus d'évacuation, dont nous voyons les efforts portés de façon manifeste sur le Genji, est en réalité dirigé contre le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme et pas le confucianisme, qui est tout aussi étranger au Japon ? C'est certainement parce qu'il apparaît comme évident que les idées morales et politiques confucianistes ne sont pas aussi profondément intégrées dans la langue japonaise. Toute la dialectique wakan, sino-japonaise, que nous avons examinée au long de ces années, si elle présente effectivement des analogies manifestes, et nous avons vu que la poésie chinoise est intégrée par le waka de façon identique à la doctrine bouddhique, en une démarche qui est au moins aussi ancienne. Et je ne reviendrai pas j'aurai peut-être le temps d'y revenir dans d'autres circonstances. Mais cette dialectique, ce décalage des doctrines bouddhiques dans la langue japonaise est plus ancienne que les shakyoka en tant que telles. Je vous ai toujours dit, avec raison, je pense, que les shakyoka, en tant que genre littéraire, se sont développés à la fin du Xe siècle, quasiment autour de Murasaki Shikibu. Mais en réalité, vous avez des antécédents bien plus anciens et dont on est certain, n'est-ce pas, qui remontent au 8e siècle. Et on a déjà tous les ingrédients du Shakyoka qui sont là, justement, dans le décalage dans la langue japonaise de doctrine bouddhique. Alors, donc, nous avons vu que cette dialectique est justifié dogmatiquement, et nous l'avons vu et revu, par la théorie de l'assimilation des Bouddhas et des dieux du Japon, ce qu'on appelle le Honji Suijaku. Il est évident que le confucianisme n'aurait pas pu jouer le même rôle de catalyseur spirituel. On pourrait se demander le rôle qu'il accorderait aux divinités japonaises, quand bien même son avantage pour le maintien du pouvoir impérial est pleinement reconnu. Et il existe d'ailleurs, je ne peux pas le cacher, mais l'enchaînement est tellement évident entre ce phénomène du Honji Suijaku qui précède et ce phénomène qu'on a appelé le Suika Shinto, n'est-ce pas, le Shinto augmenté, si vous voulez, avec le Sui qui est le même Sui que Suijaku, c'est-à-dire donc c'est une sorte de courant shinto-confucianiste, n'est-ce pas, qui va se développer à la même époque. Mais il n'est pas exagéré de l'estimer transposé du Honji Suijaku. Mais nous avons vu avec Jien que le pouvoir impérial est tout aussi efficacement soutenu par le bouddhisme en une relation voie royale, voie dharmique, la voie de la loi, voie du... etc. Où l'on comprend bien que c'est celle-ci qui est prédominante. Donc la justification du pouvoir impérial n'avait pas besoin du confucianisme au Japon, le bouddhisme lui fournissait déjà toute sa matière. À la lumière de la pleine reconnaissance de cette situation, il apparaît donc que l'évacuation du bouddhisme, qu'elle se fasse de façon directe ou indirecte, est une démarche indispensable pour accomplir ce qui sera désormais l'autonomie de la langue japonaise. L'essor du nouveau mouvement philologique dit Kokugaku se fondait sur cette idée. Et l'on pourrait dire que la voie, cette michi si élusive, est avant tout cela, la démonstration du fait que la langue japonaise n'a plus à s'appuyer que sur elle-même puisqu'elle est d'essence divine. L'échafaudage dogmatique de l'assimilation des Bouddhas et des Kamis n'a plus lieu d'être une fois que l'originalité de la langue a été clairement mise en lumière et que la filiation langagière qui relie le Genji au Kojiki est posée comme indépendante de tout apport extérieur. C'est ce qu'a fait Norinaga. On comprend donc que le bouddhisme devienne l'élément étranger dont il faille se débarrasser en priorité et qu'il devienne la cible favorite de nos philologues. Cette offensive va se dérouler tout au long du XVIIIe siècle et dans la première partie du XIXe. Ce ne sera pas faire preuve de grande perspicacité que de souligner qu'elle prépare le grand mouvement du début de la refondation de Meiji, que notre ami Alain de Grappard avait qualifié de révolution culturelle. Nous voulons parler de la campagne d'éradication du bouddhisme, Haibutsu Kishaku, qui a sévi, disons, grosso modo, autour des années 70, 73, 74. Là encore, on peut dire que le pouvoir et ses intellectuels ne se trompent pas d'ennemis. L'autonomie du Japon, de sa religion et de sa langue, passe par l'abolition du bouddhisme. Cette doctrine a certes été la base doctrinale de l'autonomisation, mais au prix d'un processus que nous avons longuement analysé, lequel est celui d'une transposition, d'une translation, d'une altération. Une fois le processus réalisé, il convenait d'en supprimer les traces. C'est pourquoi nous avons intitulé le cours de cette année « Le départ du bouddhisme ». On aura bien sûr reconnu dans ce mot le substantif du verbe « départir », « se départir » au sens de « se séparer » et la séparation donc comme d'en faire le départ du bon et du mauvais. Et tel est bien le propos de nos philologues novateurs. Il faut désormais se séparer du bouddhisme qui aura accompli son œuvre au Japon comme dans d'autres pays, bien qu'elle se soit ici accomplie avec une profondeur particulièrement remarquable. Il faut donc voir dans l'œuvre des philologues du Kokugaku une opération allant bien plus à l'encontre du bouddhisme que du confucianisme. N'oublions pas qu'après Jien, l'idée d'un lien particulier entre le japonais et la langue brahmique, c'était le bongo, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sanskrit, s'était profondément implanté chez les lettrés japonais. C'était en réalité la première étape du processus d'autonomisation, qui avait consisté à atténuer le sentiment de dépendance à l'égard du chinois. En reliant directement le japonais à la langue brahmique, la langue chinoise ne prenait plus la place que d'un moyen d'expression matérielle. On se rappellera aussi à ce propos qu'exactement selon la même démarche qui voyait Murasaki Shikibu s'identifier à Kannon Bosatsu, à Bodhisattva Avalokiteshvara, une préface de Jien, encore lui, identifiait Po Chui, n'est-ce pas, Hakurakuten, le grand poète chinois du milieu du IXe siècle, qui a vraiment formé la poésie, qui était le livre d'école de la poésie sino-japonaise et japonaise aussi, médiévale, n'est-ce pas. Eh bien, Jien identifiait Hakurakuten rien moins qu'à Manju Bosatsu, au Bodhisattva Manjushri, n'est-ce pas. Pour en montrer l'action sur la poésie japonaise, puisque Jien lui aussi a transposé en japonais des poèmes de Manju Bosatsu, mais il ne le fait pas en tant que classique chinois, il le fait en tant que révélation du Bodhisattva Manjushri. Les belles lettres aussi, donc, les plus authentiquement chinoises, je ne nie pas bien sûr tout le côté bouddhique de Bozhui, on en a déjà suffisamment parlé, mais donc les belles lettres les plus authentiquement chinoises ne valaient que par nature foncière bouddhique. La dette de la langue japonaise à l'égard du bouddhisme était trop forte et pérenne pour que les philologues nationaux la prennent à la légère. Mieux valait l'annuler si l'on tenait à voir la langue de l'Empire se déployer dans toute son indépendance, ne devant son existence qu'aux dieux du Japon. Cette intention primordiale va se révéler au cours du XVIIIe siècle. Sans revenir sur Motoori Norinaga, dont nous avons suffisamment parlé pour l'instant, mais tout en gardant à l'esprit son apport décisif au départ du bouddhisme, que sont ses conceptions sur la voix et la parole, nous allons nous concentrer cette année sur deux penseurs qui ont joué un rôle fondamental. Ils doivent être étudiés ensemble, parce que le second s'est situé explicitement dans la lignée du premier, tout en accentuant les conséquences de ces positions que nous pouvons appeler philosophiques et historiques. Conséquences qui veulent mener dans une seule direction, à savoir la disqualification du bouddhisme comme support de la culture et de la société japonaise. Nous reviendrons plus en détail sur l'évolution qui se laisse discerner entre les deux auteurs, et nous verrons rapidement qu'ils n'ont pas du tout les mêmes intentions finales, malgré la proximité d'une partie de leur démarche. Ce qui compte est le résultat. Et nous verrons ainsi que l'un comme l'autre a bien en vue l'autonomie de la voix du Japon, bien qu'il ne la situe pas sur le même plan. Un autre point commun, important à ces deux auteurs, l'est aussi avec la plupart de leurs contemporains. Si l'on met de côté les encore rares spécialistes à l'époque des études hollandaises du Rangaku, qui commencent malgré tout à imposer une autorité nouvelle fondée sur une nouvelle vision du monde d'origine bien plus exotique que la précédente. Un autre point commun est donc que l'on se trouve en présence des derniers penseurs qui s'appuient essentiellement, presque exclusivement, sur le fond traditionnel japonais. Leur réflexion s'élabore sur des sources disponibles pour tous les lettrés. Leur œuvre est le fruit d'un traitement personnel de matériaux collectifs, c'est-à-dire qu'elles sont un développement japonais mené indépendamment d'influences occidentales, du moins d'influences explicites. Il ne faut peut-être pas trop exagérer quand même. Il se peut aussi que les deux aient tenu à les taire, ces influences occidentales, je pense en particulier au second, Atsutane, pour des raisons politiques. On pourra certes nous objecter, et ce sera une objection d'autant plus pertinente qu'elle sera fondée sur une remarque que nous avons déjà faite à plusieurs reprises, que cette critique du bouddhisme doit certainement être tenue pour un prolongement méthodologique de la critique du christianisme qui a fleuri au siècle précédent. La prise de conscience de la nature étrangère du bouddhisme a sans aucun doute été stimulée par la polémique antichrétienne. Mais le fait est que le christianisme est presque complètement absent de la réflexion anti-bouddhique et anti-confucianiste du XVIIIe siècle, notamment des textes qui vont nous occuper. Cette absence est remarquable et démontre, à notre avis, la volonté de rester délibérément dans les cadres conceptuels traditionnels du Japon et de rendre la critique plus efficace encore en la faisant surgir des sources traditionnelles et des méthodes exégétiques traditionnelles par la mise en œuvre d'un jugement fondé lui aussi sur une réflexion interne et pas une réflexion interne et, ajouterons-nous, menée effectivement dans un cadre traditionnel puisque nous nous retrouvons en ces dernières années où les derniers lettrés japonaises jouissent encore de la capacité de penser selon des catégories qui ont informé leur vision du monde depuis la plus haute antiquité. Nous allons voir en effet que le point de départ des deux auteurs sera le genre fort ancien de l'essai sur les trois doctrines, les Sangyo, n'est-ce pas ? J'y reviendrai la semaine prochaine, inauguré au Japon de façon éclatante par Kukai dès la fin du 8e siècle. La grande différence sera bien sûr que le recours à ce cadre va mener cette fois à son éclatement et à l'évacuation du bouddhisme, encore une fois, au départ du bouddhisme, alors que jusqu'alors, ce genre avait eu pour but de montrer la supériorité de cette doctrine sur les deux autres. Nous verrons au prochain cours comment ce retournement va s'effectuer. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui et je suis désolé d'avoir encore dépassé 10 minutes. Je pensais ne pas le faire. Merci.